Qu'il s'appelle le Berlusconi ou Beppe Grillo, Mouvement 5 étoiles, qu'il s'appelle Rassemblement National ou NVA, Poutine ou Trump, le populisme est toujours, toujours présent ces derniers temps. Et Catherine Fieschi va nous dire que, en termes de fin mot, le populisme est toujours une catastrophe.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
En période de crise, il faut un gouvernement fort pour moderniser le pays. J'ai fait le choix de l'intérêt de l'Italie et du peuple italien. J'ai donc décidé, non sans quelques tourments, de soutenir le gouvernement.
Pendant trop longtemps, un petit groupe a accaparé les rênes du pouvoir alors que le peuple en a payé les coûts. Les hommes politiques ont prospéré, mais les emplois ont disparu, les usines ont fermé leurs portes. L'establishment s'est protégé, mais n'a pas protégé les citoyens de notre pays.
Une politique de respect pour chacun, parce que c'est la réalité du 21e siècle. C'est un autre discours qu'un discours populiste.
C'est un système d'extrême droite qui veut polariser l'opinion publique pour naturellement des raisons électorales. Ils ont quelque chose de trumpien et de populiste.
Soyons vigilants et montrons-nous lucides face aux discours populistes. Ils s'efforcent toujours de trouver des boucs émissaires à la crise, qu'il s'agisse de l'étranger ou des habitants d'une autre partie de leur pays.
On peut avoir des partis politiques qui sont systématiquement populistes, qui vont toujours diviser le peuple d'un côté et les élites de l'autre, et on peut avoir à côté de cela des partis qui ne sont pas populistes, mais avoir des personnalités politiques qui vont avoir à un moment donné une rhétorique populiste.
Si nous voulons gouverner, nous devrons le faire pour les Français et avec ceux qui partagent notre immense amour de la France.
Si ces données devaient être confirmées, ce sera un triomphe du mouvement 5 étoiles, une véritable apothéose qui démontre la qualité du travail qu'on a fait, et surtout cela démontrera autre chose, que tous devront parler avec nous, et ça, ce sera la première fois.
Nous sommes là pour protester contre le budget. Ils nous disent qu'ils veulent redistribuer les richesses, prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais dans la réalité, ils prennent à tout le monde pour donner à personne.
La première. Le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Bonsoir Catherine Fieschi.
Bonsoir.
Alors, ces populismes dont on parle tant ces temps-ci, que l'on regarde vers ce qu'on appelle l'illibéralisme en Hongrie ou en Pologne, que l'on parle de ce qui s'est passé ou se passe encore d'une manière ou d'une autre en Italie, mais même dans nos régions. Ces populismes, vous dites, en fait, ce sont de vrais caméléons.
Oui, effectivement. Je pense que l'une des grandes forces du populisme, c'est qu'il est en quelque sorte moins doctrinaire, moins rigide que les autres idéologies en isme auxquelles on pourrait penser. Il n'y a pas de doctrine écrite, il n'y a pas de leader historique de ces mouvements populistes, donc il n'y a pas de cadre de référence immuable auquel les leaders sont forcés de faire référence ou auquel les publics s'attendent. Et donc ça veut dire qu'ils sont très adaptables. Ils sont très malléables, ils sont capables de faire feu de tout bois et presque de toute crise. C'est en ça que je dis qu'ils sont des caméléons tout à fait adaptables aux différentes périodes et aux différentes demandes du moment.
Est-ce qu'il y a une possibilité pour ces populismes de plutôt épouser à droite ou à l'extrême droite, ou est-ce qu'ils sont aussi bien balancés sur l'extrême gauche que sur l'extrême droite ?
Alors, je pense qu'en fait, il y a des populismes aussi bien à droite qu'à gauche. Je suis basée à Paris, je pense qu'on peut dire que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon est un leader populiste de gauche, alors que Marine Le Pen est un leader populiste de droite. Je pense que l'Italie était un très bon exemple. Nous avons même eu une alliance de gouvernement, n'est-ce pas, entre un populisme de gauche avec le mouvement 5 étoiles et un populisme de droite avec la Ligue et sous le leadership de Salvini. Ceci dit, et ayant dit cela, et je rajouterai quand même aussi, entre parenthèses, que lorsqu'on se penche sur la branche latino-américaine des populismes, alors là, pour le coup, ce sont des populismes qui seraient plutôt à gauche. Malgré tout, je dirais que dans les économies avancées, en Europe, en Amérique du Nord, nous voyons quand même que le populisme est plus à l'aise à droite, parce que finalement, la notion de peuple est plus facilement opérationnelle à droite parce que elle est contiguë à la notion de race, à la notion de culture, dans les idéologies de l'extrême droite en tout cas. Alors que c'est vrai qu'à gauche, la notion de peuple est moins malléable en ces termes. Mais je maintiens qu'on a des populismes de droite et des populismes de gauche.
Alors pour ce qui est des caractéristiques ou des mots-clés que l'on pourrait alors mettre sous le parapluie populisme, est-ce que forcément des mots comme fascisme, antisémitisme, protectionnisme, racisme font forcément ménage ? Ou est-ce que, évolution des mentalités oblige, ils sont éminemment adaptatifs ?
Je crois que, par exemple, si on parle du fascisme, donc une idéologie quand même plus développée, alors elle avec plus de doctrines, plus de références historiques, etc. Je pense qu'au sein du fascisme, il y avait un élément populiste. L'élément populiste qui permettait effectivement d'avoir cet appel direct envers le peuple, qui n'était pas simplement une addition ou un moyen, mais qui était une véritable revendication. Parce que finalement, le populisme au départ, quand même, je pense que c'est ça. À la base, il y a cette idée que c'est une espèce de communion entre des dirigeants ou un dirigeant et le peuple, une forme de politique beaucoup plus directe, qui se passe d'institutions intermédiaires, qui se passe d'instances représentatives. Et donc, cet aspect très direct permet de prendre par exemple une idéologie comme le fascisme, qui est une idéologie quand même élitiste, des super-hommes, etc., etc., et d'en faire quelque chose beaucoup plus acceptable par les lecteurs moyens et le peuple. Ceci dit, ce qu'on a vu surtout, c'est que, pas simplement sous les pressions du populisme, mais de toute façon sous les pressions culturelles, médiatiques, les formes du racisme ont évolué et le populisme de droite, lui, a su très bien profiter de cette évolution, faire par exemple ce qu'on a appelé du racisme différentialiste, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie entre les races, diraient certains, mais par contre, restons séparés, ne nous mélangeons pas tout à fait. Et puis, le populisme a été plus loin en disant finalement, nous n'avons aucun problème avec les différentes races. Ce qui nous importe, c'est que les gens soient des nôtres, qu'ils se comportent comme nous. Et donc, cette espèce de demande insistante de se fondre, de s'assimiler, de ne présenter aucune différence, aucune aspérité, ça, c'est une vraie transformation, je dirais. C'est une vraie transformation de la façon dont on se sert des mêmes racistes. Et le populisme a été très capable de le faire.
Dans la mesure où on a souvent pointé dans le champ de l'extrême droite l'idée qu'il puisse ou qu'elle puisse s'avancer masquée sur ses véritables intentions, est-ce que à cet égard les populismes sont plus clairs ?
En quelque sorte, les populismes sont beaucoup plus doués pour avancer masqués parce que leur récit, qui est de dire ce qui nous importe, c'est le peuple ordinaire. Tous ceux qui se sentent faisant partie de ce peuple, nous voulons les représenter. Nous ne demandons rien d'extraordinaire qu'une espèce de normalité, de récit que nous pouvons tous partager. Je pense qu'au contraire, le populisme avance masqué de façon beaucoup plus efficace que l'extrême droite. Parce que le populisme adopte véritablement le langage de la démocratie. C'est pour ça que c'est si difficile de le combattre. Quand le populisme dit « nous représentons le peuple », en tant que démocrate, c'est très difficile de s'insurger contre ce type de revendication. Donc, à endosser les habits d'une démocratie directe, d'une démocratie, je dirais, presque moins technocratique, peut-être plus sensuelle, plus émotionnelle, au contraire, le problème, c'est que les populismes font figure de démocrates authentiques.
Dans une tribune récente dans le journal économique L'Écho, chez nous, vous titriez, ou en tout cas on vous attribuait le titre « Les populismes sont toujours une catastrophe ».
Oui, alors il y a un débat, n'est-ce pas, dans cette petite industrie des études populistes telle qu'elle est devenue. Certains de mes collègues, avec lesquels par ailleurs je suis d'accord sur d'autres points, disent que finalement le populisme c'est pas si mal parce que ça remet un peu les pendules à l'heure, ça rappelle aux hommes et aux femmes politiques qu'on ne peut pas être simplement des technocrates, qu'il faut écouter le bon sens du peuple, etc. Moi, j'ai tendance à dire que les populismes sont toujours une catastrophe pour plusieurs raisons. D'abord parce que Nous vivons dans une société où les problèmes sont de plus en plus complexes. Et quand je dis complexe, je ne veux pas dire compliqué. Je veux dire que chaque problème a tellement de facettes mouvantes en même temps qu'il y a une complexité qui fait qu'on ne peut pas penser simplement proposer des solutions simples. Il n'y a qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela. Malheureusement, c'est un mirage, c'est une illusion qu'il faut laisser derrière nous. Et deuxièmement, je pense que c'est toujours une catastrophe parce que les populismes, finalement, scindent des sociétés en une majorité qui aurait toujours raison. C'est quand même les rois de la majorité, hein, c'est de prendre la majorité et de mettre en place ses préférences et de mettre de côté, donc, les minorités. Et les minorités qui sont parfois, si on prend le cas du Brexit, 48% de la population, par exemple, qui sont disqualifiés en quelque sorte parce qu'ils ne font pas partie de cette majorité. Et ça, je pense que c'est très grave parce que nous vivons dans des sociétés qui sont diverses, qui sont de plus en plus plurielles, avec plusieurs types de minorités différentes. Et donc, je pense que les populismes ne sont vraiment pas le type de politique qu'il nous faut à notre époque.
Vous nous dites par ailleurs que ces populismes sont très ou de type très caméléon, dans la mesure où ils peuvent, non seulement on l'a commenté, avancer masqué, prendre l'air du temps, mais effectivement ne même pas craindre, on va dire, les paradoxes, d'avoir des discours ou des évolutions qui peuvent paraître paradoxales dans leurs paroles.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense que d'ailleurs, les paradoxes, même les contradictions inhérentes, les servent. Par exemple, l'une des dynamiques puissantes dans les populismes, c'est de demander une véritable authenticité à ses dirigeants et, ou à ses dirigeantes. Des gens qui seraient en fait une réflexion du peuple, qui seraient lisibles plutôt que justement trop technocrates, qui s'exprimeraient trop bien ou de façon trop compliquée. On cherche, je pense quand on est un électeur ou une électrice populiste, on aspire à un dirigeant qu'on pourrait comprendre facilement, qui serait transparent et authentique. Or, nous savons très bien, si on prend le cas par exemple de quelqu'un comme Donald Trump ou si on prend le cas de quelqu'un comme Silvio Berlusconi en Italie, ce sont des dirigeants qui mentent comme des arracheurs de dents. Et je dirais que ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ça ne joue pas contre eux, mais en fait, je crois que ça joue en leur faveur en ce sens qu'ils peuvent s'exhiber comme étant des espèces de mavericks politiques. Vous voyez, je ne recule devant rien, non seulement je mens, mais je l'assume. Je suis comme vous, je ne suis pas mieux que vous. Et en plus, je peux faire passer le message en mentant et en t'aimant que finalement, les normes des démocraties représentatives telles qu'elles sont encensées en quelque sorte par les élites traditionnelles, eh bien, je m'en tape. Moi, pour mon peuple, je suis prêt à mentir, à dire ce qu'il faut et vraiment à me mettre en porte-à-faux avec tout ce que l'élite tient comme sacré, important, incontournable. Donc en fait, je pense que le paradoxe, non seulement ça ne leur nuit pas, mais en fait, ça joue en leur faveur.
Dans la mesure où l'on évoque souvent la crise financière, par exemple depuis 2008, comme matrice en quelque sorte du développement de ces populismes, vous vous dites faux.
Alors moi, je dis faux parce que simplement, soyons clairs, la crise financière de 2008 n'a certainement pas nui à ces mouvements dont l'un des refrains est de dire que les élites qui sont au pouvoir sont non seulement corrompues mais en plus incompétentes. En 2008, non seulement cela semblait valider cette proposition mais en plus ça les aidait en quelque sorte à créer, à mettre en scène toutes ces élites dont ils se méfient, c'est-à-dire pas simplement l'élite politique, mais l'élite médiatique aussi, les banquiers, les médias, comme je le disais. Donc évidemment, la crise de 2008 est une bulle d'oxygène pour eux. C'est la preuve par neuf que le système est corrompu, que les petits y perdent leur chemise et que les élites sont incompétentes et incapables d'offrir une voie de sortie. Mais la raison pour laquelle je trouve que c'est réducteur, c'est que la plupart des mouvements populistes que nous subissons en Europe et que les États-Unis avaient commencé à subir avec Sarah Palin, par exemple, bien avant Trump, ça date d'avant 2008. Le Front National, maintenant Rassemblement National en France, il date de 1972. Le Pen au deuxième tour, c'est 2002. Silvio Berlusconi, ce sont quand même les années 90. Beppe Grillo, c'est bien avant la crise. Donc, je pense que 2008, ça aide pour les mouvements et les partis populistes, mais ça n'en est pas l'explication.
Est-ce qu'ils ont, ces partis populistes, de gauche comme de droite, d'office vocation au pouvoir? Ou est-ce que, comme certains, y compris ici en Belgique, laissent entendre, ils ont plutôt vocation à être l'opposition par excellence?
Alors, je crois qu'on s'est longtemps consolé, y compris moi-même, on s'est longtemps consolé en pensant que, finalement, c'était des disrupteurs dans l'opposition, mais qu'une fois confrontés au pouvoir, finalement, ça se passait très mal. Je pense qu'effectivement, ils sont extrêmement nuisibles et ils sont probablement peut-être plus efficaces. Disons qu'ils sont plus efficaces en ce sens qu'ils y perdent moins de plumes, en quelque sorte, quand ils restent dans l'opposition. Par exemple, évidemment, le cas de Marine Le Pen en France, mais même, par exemple, aux Pays-Bas, où finalement, Wilders ne s'est jamais joint au gouvernement, il est toujours resté à l'extérieur. Et ça, je crois que ce que l'on voit dans l'opposition, c'est qu'ils ont une capacité de nuisance extrêmement prononcée, mais on avait cru qu'une fois au pouvoir, ça se passerait très mal. Alors, si on prend le cas des États-Unis, on peut se dire qu'effectivement, ça s'est très mal passé. Le problème, c'est que ça a beau s'être, pour la plupart d'entre nous, très mal passé, 74 millions d'Américains ont quand même voté pour Trump à la dernière élection. Donc, le constat d'échec ou le constat de faillite n'est pas partagé par tous. Je pense que si on se penche sur le cas de l'Italie, c'est vrai que l'alliance du mouvement 5 étoiles et de la Ligue au gouvernement italien pendant quelques années, ça a été extrêmement difficile, une véritable instabilité gouvernementale, sans parler effectivement de surcroît des retombées sur leurs relations avec leurs partenaires européens. Mais finalement, on n'a pas l'impression que les partis eux-mêmes et que les dirigeants véritablement payent les pots cassés. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas efficaces au pouvoir, mais si leurs supporters ne leur en tiennent pas rigueur, c'est un échec tout à fait relatif.
Dans la mesure où on sait intuitivement, quand on entend, on lit les discours populistes, que l'autre, l'étranger, le non-national est souvent pointé du doigt, c'est plus étonnant de voir à quel point vous nous révélez que, par exemple, en Finlande, pour les Finlandais, l'ennemi, serais-je tenté de dire, ce n'est pas tant l'étranger qui rejoindrait la Finlande que la femme.
Oui, je pense que c'est un cas assez intéressant des populismes dans les pays scandinaves. C'est le cas en Finlande, mais c'est aussi le cas, on l'a vu, en Norvège, aussi en Suède. Finalement, ce sont des pays où la cause des femmes est très avancée, l'égalité d'emploi et des chances pour les femmes sur le marché du travail. Et ce sont des pays qui sont particulièrement intéressants parce que finalement, ils ont longtemps eu une tradition agraire, donc peut-être plus longtemps qu'ailleurs, des rôles très traditionnels, et puis à un moment donné, une grande et assez abrupte modernisation des relations dans la société, y compris la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Et finalement, alors en Suède, on voit quand même une véritable mobilisation contre les vagues migratoires, les immigrés, etc. Parce que la Suède est une société qui très rapidement est devenue très diverse. Il y a quand même près de 15% d'étrangers en Suède, dans un pays de 10 millions d'habitants. Donc là, il y a aussi la figure de l'étranger qui joue son rôle, mais aussi un ressentiment qui est véritablement un ressentiment traditionnaliste, une espèce d'hyper-conservatisme, un désir de retour à une société avec laquelle on était plus familier, où chacun avait son rôle, chacun connaissait ses marques. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est le cas non seulement de la Finlande, mais aussi des autres pays scandinaves. Et finalement, la femme fait figure, comme le migrant, de la personne qui vous pique votre boulot. Alors, on sait que ce n'est pas vrai, ni dans un cas ni dans l'autre, mais il y a toute une frange de la population qui le ressent comme tel.
Pour finir sur une note particulière également, est-ce que l'on peut dire que les populismes, singulièrement en Europe, mais probablement sans doute aussi les populismes d'Amérique latine, sont des tisseurs d'angoisse ?
Je crois que ce sont des gens qui sont, des gens, ça paraît très vague, mais des dirigeants, des relayeurs d'angoisse. Je crois que, surtout vu leur utilisation des médias sociaux et les caractéristiques des médias sociaux, c'est-à-dire le fait que l'on puisse créer des bulles, des espèces de chambres d'écho, comme on dit, ou des espèces d'entre-soi, ces entre-soi sont des terrains tout à fait propices pour développer les angoisses, nourrir les angoisses, fabriquer des théories du complot. Donc je pense qu'effectivement, ce sont en quelque sorte des tisseurs d'angoisse. Mais ce sont aussi, et je pense que les deux vont ensemble, ce sont des fabricants de doutes. Et ça, je crois que ça joue un rôle très important aussi, c'est-à-dire la destruction de la confiance dans certaines sources, dans certaines professions, la remise en cause des institutions, mais pas simplement des institutions politiques, mais aussi des institutions médiatiques. Et je pense que les deux vont ensemble détruire la confiance que l'on avait pu avoir en un certain nombre d'institutions diverses et ensuite, à partir de là, tirer effectivement les fils de l'angoisse que l'on peut continuer à créer puisque de plus en plus, on va conforter les gens dans des espèces de bulles d'entre-soi où on va en quelque sorte politiquement les caresser dans le sens du poil, j'allais dire, parce que leur donner raison à propos des angoisses qu'ils ressentent. Tout en les encourageant à en faire part aux dirigeants politiques sortants.
Le portrait que vous nous en dressez met quand même curieusement et furieusement en relief le contraste entre les populistes qui offrent un discours aisément compréhensible par tous et des responsables d'État qui ont failli, qui n'arrivent pas à proposer de réponse.
Oui, alors ça, je crois que non, c'est pas simplement un paradoxe, c'est la tragédie du moment. C'est-à-dire que au moment où nos dirigeants font face à des défis absolument colossaux qui demandent non seulement une collaboration entre eux au niveau multilatéral et transnational, mais aussi un consentement, un soutien de la part de leur population. Je pense évidemment à la pandémie, je pense aussi évidemment au réchauffement climatique. Au moment où véritablement les politiques sont au zénith, en quelque sorte, de la complexité et de l'urgence, nous avons effectivement, et que donc forcément ces dirigeants vont être à la peine, vont avoir du mal à convaincre, vont demander à leur population des sacrifices considérables, que ce soit de rester chez eux, que ce soit de consommer moins ou de consommer autrement. C'est à ce moment-là qu'effectivement, ils risquent d'être en difficulté et c'est à ce moment-là que les populistes peuvent les pointer du doigt en disant « Nous ne comprenons rien à ce que vous disiez, vous nous promettez tout et son contraire, vous nous en demandez toujours plus et ça ne sera jamais assez. » Donc c'est la véritable tragédie de ce paradoxe que nous vivons. Jamais nous n'avons à faire tant d'efforts, jamais les efforts n'auront été aussi compliqués et jamais il n'y a eu autant d'acteurs politiques populistes pour pointer du doigt les échecs, les faillites potentielles, les erreurs.
Merci pour cette mise en perspective, Catherine Fieschi. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste des populismes et des extrémismes et que vous dirigez le cabinet de recherche et de conseil londonien Counterpoint.
Merci à vous.